Vous écoutez RTL.
RTL. 20 janvier 1981, Ronald Reagan devient le 40e président des États-Unis. À ses côtés, sa femme Nancy Reagan, la nouvelle première dame, ancienne comédienne, la native de New York prend rapidement ce nouveau rôle très à cœur.
Drugs take away the dream.
Ce qui a fait bon poids, c'est Jackie à la Maison-Blanche. Car c'est vrai qu'elle succédait à Mamie Eisenhower, ça n'était pas le même look.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Jackie Kennedy, Nancy Reagan, des First Lady. Alors justement, pourquoi on en parle? Parce que demain, les Américains élisent leur nouveau président. Et pour la première fois, une ancienne First Lady va peut-être devenir présidente. Double révolution au palais. Quel a été le rôle de ces femmes de président dans l'histoire américaine? Le récit avec nos invités, l'historienne et politologue Nicole Bacharan, bonsoir.
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 Ravie de vous retrouver au micro de La Curiosité à vos côtés. Dominique Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes
bonsoir,
écrivain et journaliste, soyez les bienvenus. Vous publiez à quatre mains First Lady à la conquête de la Maison Blanche, c'est aux éditions Perrin. Alors, si Hillary, pour bien comprendre, est élue présidente, Bill Clinton va devenir sa première dame ou son premier gentleman? C'est quoi la sémantique?
Alors, en fait, je pense qu'on va continuer à l'appeler Mr. President, parce que les présidents, on les appelle présidents toute leur vie, bien après qu'ils aient quitté le bureau ovale. Alors, on aura peut-être un Mr. President et une Madame President.
Mais c'est troublant, parce qu'on va avoir deux présidents à la Maison Blanche, en fait.
C'est troublant, et je pense que la première mission de Bill Clinton, si Hillary est élue, ce sera de faire en sorte de ne pas avoir l'air d'être un président bis.
Oui.
Alors,
bah,
sinon, qu'est-ce que vous proposez?
Mais il va faire du jardin par exemple,
oui,
ou
gentleman.
Ouais. Oui. Mais il va devoir inventer un rôle.
Il va devoir inventer un rôle, exactement. Alors, on ne pense pas que c'est qu'il va faire le...
Si sa femme était lui,
si
évidemment.
Si sa femme était lui. Hein. Mais enfin, il y a quand même déjà un petit peu réfléchi, à mon avis, parce qu'il y a quand même quelques chances. Apparemment, ce n'est pas tellement lui qui va faire les menus et les plans de table et la décoration.
Mais pourquoi pas? Ça pourrait être formidable.
Mais moi, je serais assez pour.
Il n'y a pas que les hommes qui font la cuisine et qui reçoivent.
Dominique, qu'est-ce que...
Dominique Simonet.
Qu'est-ce qu'il peut inventer comme personnage, Bill
Oui,
Clinton?
Enfin, il peut toujours. Hein. On ne sait pas bien si... s'il a des goûts particuliers culinaires ou en tout cas...
Ah non, il ne mange plus rien, vegan, maximum.
Ils sont assez ascétiques sur ce plan. Cela dit, je pense qu'il va quand même jouer un rôle politique et sans doute international. Il va continuer. Vous savez qu'en plus, il y a une fondation Clinton qui existe toujours.
Ouais.
Ils ont des activités extérieures que devra mettre en veilleuse la présidente, bien évidemment, et sans doute un peu lui aussi. Mais à mon avis, il va quand même jouer un rôle politique en ses forçant de ne pas trop empiéter sur le rôle de la présidente, parce que ça ferait mauvais genre.
Alors, on va parler là des First Ladies et de leur rôle. La toute première, c'est Martha Washington, 1789. C'est une fonction, je ne sais pas quel terme employer, qui a beaucoup évolué.
Oui, et quand vous hésitez sur le mot rôle ou fonction, c'est parce qu'en fait, ça n'existe pas.
Eh oui.
On ne sait pas ce que c'est. Elle n'a pas un statut, elle n'est pas inscrite dans la Constitution, ce n'est pas un métier, elle n'a pas de salaire. Et pourtant, Martha Washington, donc l'épouse du grand homme, du premier président, George Washington, elle voit tout de suite que l'on attend quelque chose d'elle. Mais ce quelque chose... Personne ne lui dit exactement ce que c'est et il faut qu'elle l'invente quand son mari devient président, le premier président des États-Unis. Elle a 58 ans, c'est une dame tout à fait bien, de très très bonne famille, d'ailleurs très très fortunée. Elle arrive à New York, puisqu'à ce moment-là, la ville de Washington n'existe pas. Ça se passe à New York et quand elle arrive, elle descend du bateau et elle est accueillie par des coups de canon et par une foule qui crie « Vive Lady President, vive Lady Washington !» Elle sait qu'il va falloir qu'elle joue un rôle.
Et ce rôle va évoluer, on va continuer de raconter son histoire dans quelques instants, mais ces First Ladies, on s'en est toujours un peu méfié dans l'histoire politique américaine, elles avaient même des surnoms assez terribles, vous les avez en tête?
Oui, parce qu'elles n'ont pas toujours été appréciées. C'est d'ailleurs, et elles, en général, notamment au 19e siècle, elles n'avaient pas très envie d'être First Lady. C'était pas un cadeau d'avoir cette fonction-là.
Parce que c'était une prison et qu'il y avait un protocole.
Certaines ont employé cette expression. Effectivement, c'est une prison d'État, hein, parce qu'elles sont sous la loupe, on les regarde. Même avant les médias de masse, elles étaient quand même très, très surveillées et elles étaient un peu engoncées dans un protocole. protocole. Et oui, alors on les a appelés de toutes les manières. La dernière en date, ou la prochaine plutôt, présidente Hillary Clinton, on l'a longtemps surnommée Lady Macbeth, par exemple. Son côté machiavélique supposé, cette arrogance.
Oui, c'est assez horrible, hein, Lady Macbeth, c'est quand même l'héroïne qui a les mains rouges de sang jusqu'au coude. Elle a beau se laver les mains dans la pièce de Shakespeare, elle peut pas enlever tout ce sang. Et sa mission, c'est d'empêcher son mari, peut-être mollasson, d'être trop gentil, d'être too full of the milk of human kindness, le lait de la tendresse humaine. Donc féroce.
Oui. Si vous voulez d'autres noms.
Oui, allez-y, d'autres noms.
Ah oui, on en a d'autres.
On est preneurs.
Nancy Reagan, Dragon Lady, on l'appelait par exemple. Pat Nixon, c'était Plastic Pat, tellement elle était engoncée.
C'était pas la chirurgie esthétique.
Non, pas encore.
Il y en avait une autre moins connue qui était Sarah Polk, qui était elle aussi très très réservée et froide, parce que souvent elle se cache derrière un mur, une réserve, et on l'appelait Sarah, celle-là.
Vous évoquiez Hillary Clinton. Comment se passe son arrivée à la Maison Blanche? Elle s'installe où? Qu'est-ce qu'elle va révolutionner assez vite?
Elle s'installe dans l'aile ouest. Alors quand on dit ça, ça n'a pas l'air bien méchant, mais la Maison Blanche, en fait, c'est un bâtiment en trois parties. Au centre, il y a la résidence où habite la famille, et en bas, il y a les salons de réception. Il y a l'aile est, qui est normalement l'aile de la First Lady, de son staff, des secrétaires, etc. Et l'aile ouest, où il y a le bureau ovale, qui est le centre du pouvoir. Et là, vous avez le président, ses conseillers, etc. Donc normalement, la place de la First Lady, c'est à l'est. Et Hillary Clinton, qui n'entend pas du tout quand Bill est élu, jouer un peu les hôtesses et les petites épouses traditionnelles, elle installe ses bureaux dans l'aile ouest.
Donc c'est une femme politique, elle est au centre du pouvoir. Ça va durer 8 ans. Elle y gagne, si j'ose dire, une impopularité qui pèse encore aujourd'hui sur sa campagne électorale. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de décrire ses deux mandats de First Lady. Pourquoi elle devient si impopulaire pendant ces 8 années?
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est devenue impopulaire, notamment quand Bill lui a confié la réforme de la santé à l'époque. C'était déjà ce fameux dossier dont on a parlé longtemps avec Obama et dont on reparlera sans doute dans les prochaines années, la réforme de la santé. Quand on regarde un petit peu ces différentes initiative et sa carrière, elle est populaire à chaque fois qu'elle est dans un rôle traditionnel. C'est-à-dire quand elle rentre dans le rang comme première dame classique, en ne se mêlant pas trop de politique, là sa notoriété grimpe. Par exemple, quand elle soutient son mari après l'affaire Lewinsky, en bonne épouse, bonne mère, elle devient extrêmement populaire.
Et sa cote chute dès qu'elle refait de la politique.
Absolument, quand elle commence à faire campagne, par exemple, ça cote évidemment tout de suite chute. C'est-à-dire en fait que quand une femme essaye d'aller un petit peu sur le terrain des hommes, on n'aime pas ça. En tout cas, les Américains n'aiment pas ça. Et on voit sans doute on peut comprendre sans doute une partie de l'inimitié de l'électorat américain aujourd'hui. Ils ont encore du mal à élire une femme, faut bien le dire.
Et pourtant, ils vont peut-être le faire. Dans un instant, on vous présente Martha Washington, la First Lady. Retour en 1789, les curieux. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
First Ladies, c'est donc le titre du livre de nos invités, l'historienne et politologue Nicole Bacharan, l'écrivain et journaliste Dominique Sibenet. First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, c'est publié chez Perrin. Allez, 1789, Martha Washington, on a commencé à raconter son histoire tout à l'heure. Son mari, évidemment, c'est le premier président américain. Est-ce qu'il s'installe déjà à la Maison Blanche?
Eh bien, il n'y a pas de Maison Blanche, et il n'y a même pas de Washington, la ville de Washington. C'est d'ailleurs George Washington qui va choisir le lieu où la future capitale va être construite, et ce sera vraiment au milieu de nulle part, hein, au milieu des forêts, des champs, enfin il n'y avait rien qui ressemblait même à un petit village. Donc la première capitale provisoire, en tout cas, c'est New York. Après, au bout d'un an ou deux, ça sera Philadelphie, puis retour à New York, jusqu'à ce que finalement il puisse s'installer dans une Maison Blanche qui sera encore en chantier.
Pour bien comprendre la First Lady que va devenir Martha Washington et le rôle qu'elle s'est composé, il faut raconter, et c'est passionnant, comment ils se sont rencontrés, George et Martha.
Ils se sont rencontrés en Virginie. Tous les deux sont originaires de la même région. C'est un État du Sud, un État qui a eu beaucoup d'influence sur les débuts de la République américaine. Ils avaient le même âge, 26 ans, pas du tout la même taille. Lui était un immense garçon, 1m87, et elle toute petite, 1m50 à peine. Et elle était très riche. Elle était veuve, elle avait eu 4 enfants, et elle était richissime. Et lui était colonel, beau garçon apparemment, mais un peu fauché. En tout cas, mariage à la fois de raison, à la fois d'amour. Ils se sont très très bien entendus, vraiment toute leur vie.
Un couple sans nuages.
Un couple sans nuages.
Et sans enfants aussi.
Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et Martha avait déjà perdu 2 enfants de son premier mariage, parce que malheureusement, c'était une époque où beaucoup d'enfants mouraient très tôt. Et plus tard, alors qu'elle était mariée avec Georges, qui avait complètement adopté le reste de la famille, elle a perdu d'abord une fille adolescente, et puis son dernier fils est mort pendant la guerre d'indépendance. Donc on voit que c'était quand même des femmes qui avaient des vies qui ressemblaient à celles de leurs contemporaines, et c'était des vies très dures. En lisant leurs journaux, leurs correspondances, on s'aperçoit que non, elles n'acceptaient pas facilement de perdre des enfants, même si c'était quelque chose de banal. Ça restait quelque chose de vraiment tragique.
Bien sûr. Avec les First Ladies, se pose à chaque fois la question de l'influence politique. Est-ce que c'est la première conseillère politique du président? En l'occurrence, pour les Washington, est-ce que c'est un couple politique?
C'est-à-dire, elle s'est justement posé cette question, parce que quand elle arrive, c'est la première, qui est toute première, donc elle doit tout inventer. Et elle arrive à New York, elle se voit acclamée par la foule, et elle se demande effectivement quel va être son rôle et quel doit être son rôle. Et assez vite, elle définit d'ailleurs assez bien, je crois, la lignée des First Ladies qui vont venir après, en ce sens qu'elle va essayer d'incarner une certaine attitude, une certaine morale de la nation américaine, donc un petit peu la protectrice de la nation.
D'où son surnom, la mère de la nation.
Oui, absolument. Ouais. D'ailleurs, on a hésité, les Américains ont hésité à l'appeler Lady Washington, Madame Washington. Bon, il y a eu tout un différent nom, parce que le terme de First Lady n'existait pas encore à l'époque, en tout cas pas officiellement. Et elle hésite justement aussi à trouver sa place, parce qu'on se trouve dans quelque chose de totalement nouveau. C'est la première démocratie, tout doit être réinventé, et les Washington ne veulent pas se retrouver dans un rituel monarchique. Et
ça veut dire qu'il n'y a pas de protocole, ou alors qu'on en invente un moins lourd?
C'est toute la question, parce que très vite, ils se rendent compte qu'autour d'eux, les gens recréent un protocole monarchique, avec des huissiers, avec des cérémonies.
Des costumes, des vêtements à porter, j'imagine.
Oui, avec des rites qui sont très très proches de ceux de la monarchie britannique. Et donc, il faut inventer quelque chose qui ne soit pas le rituel de la Cour d'Angleterre, un rituel démocratique. Alors, assez vite, ils vont essayer de trouver quelque chose à eux, mais il faut bien le dire. Enfin, je ne sais pas si Nicole sera d'accord avec moi, mais je crois que oui. Assez vite, ils sont quand même. Ils retombent dans quelque chose qui est assez monarchique.
Nicole Bacharon.
C'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'au début, quand ils s'installent dans cette maison, ils veulent être vraiment démocratiques. Et donc, tout le monde peut sonner à la porte et entrer. Il n'y a pas de limite. Parce que voilà, le président, il est élu, et puis il faut qu'il soit accessible au peuple. Bon, ils se rendent compte évidemment que c'est ingérable, que de temps en temps il faut qu'il dorme, qu'il travaille également, donc il fixe des heures de visite. Et ce sont les conseillers de George Washington qui, les premiers, fixent un rituel pour Martha Washington, en l'interdisant, ce qu'elle trouvera extrêmement pénible, pour ne pas dire odieux, d'accepter des invitations. Elle c'était une femme très sociable, qui vivait avec ses amis, ses copines, dirions-nous aujourd'hui.
Donc plus de dîner entre amis, par exemple.
Voilà, elle ne peut pas aller chez les autres. Et tous les soirs, par contre, il y a des gens invités chez elle qu'elle n'a pas choisi. Ce sont des invités politiques, et ça l'embête terriblement. Mais elle joue son rôle quand même.
Mais est-ce que ce couple et cette First Lady, la première First Lady, est-ce que ce couple se trouve déjà sous l'œil des médias? Non, on est en 1789, ça veut dire quoi?
Si, quand même.
Ah bon?
Et là, il y a la presse déjà.
Oui, bah oui.
Les journalistes, que puis-je vous dire? Il y a la presse, et la presse écrite évidemment, et c'est une presse très très dure. On a l'impression qu'aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, on a fait exploser beaucoup de codes, de marques de politesse, de respect ou autre. Je peux vous assurer que quand on voit les journaux qui paraissaient à la fin du 18e siècle, c'était très violent.
Mais même la First Lady, Martha Washington, est vraiment dans le collimateur. Elle est critiquée, scrutée, jugée.
Elle n'était pas critiquée directement, mais elle était scrutée. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle sortait, elle est sortie de moins en moins, et ben, il y avait des journalistes pour surveiller. Elle allait au cirque avec ses petits-enfants, elle faisait des courses, combien elle dépensait, qu'est-ce qu'elle achetait. Et le lendemain, il y avait un article et elle a pratiquement renoncé à sortir.
Et Sidonie, vous le disiez tout à l'heure, elle a dit, c'est la première à l'avoir dit, qu'elle était prisonnière d'État. Elle se sentait effectivement prisonnière.
Le mot First Lady, il apparaît quand ?
Il apparaît progressivement, en fait. C'est comme le mot Maison Blanche, on n'est pas très sûr de l'époque où ça s'est vraiment imposé. Je sais que celle qui a voulu qu'on l'appelle First Lady, c'était Mary Lincoln, l'épouse d'Abraham Lincoln, mais le terme avait existé auparavant. Il y en a une qui ne voulait pas être appelée First Lady, c'était Jackie Kennedy, qui disait, on dirait un nom de jument, comme elle était très versée en équitation. Elle trouvait que First Lady, ça faisait vraiment les trotteurs à Vincennes, mais ça s'est imposé.
Dans la deuxième,
progressivement.
Kazakh rouge.
First Lady.
Kazakh rouge, First Lady, dans la deuxième à Vincennes. Allez, on va vous raconter l'histoire de celle qui, au contraire, voulait se faire appeler First Lady. C'est Mary Lincoln, détestée, vous allez le voir.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
C'est un homme puissant qui parle librement, ouvertement, de comportements de prédateurs sexuels, en utilisant un langage tellement obscène que beaucoup d'entre nous, nous nous inquiétons que nos enfants l'entendent à la télévision. RTL.
Betty Ford avait 93 ans. Quand elle était la première dame des États-Unis dans les années 70, elle avait pris position en faveur de l'égalité homme-femme. Le président Obama a salué son courage et sa compassion.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Michelle Obama, Betty Ford, des First Lady. Powerful, comme on dit aux États-Unis. J'aime bien ce mot, powerful. Qui ont du pouvoir, hein, si on doit traduire. Alors que les Américains vont choisir leur président demain, on se passionne pour le destin de ces First Lady, ces premières dames depuis Martha Washington en 1789, avec nos invités, l'historienne Nicole Bacharan et l'écrivain Dominique Simonet. Dans le livre que vous publiez chez Perrin, First Lady, on fait la rencontre de Mary Lincoln. Alors c'est la plus détestée des First Lady. Vous allez nous raconter pourquoi. On va un peu poser le décor. On est le 6 novembre 1860. Abraham Lincoln devient 16e président des États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'il dit à sa femme ?
Mais écoutez, Abraham Lincoln, il apprend qu'il a gagné l'élection dans le bureau du télégraphe. C'est là que ça se passait, les candidats. Hein, c'est pas aujourd'hui, c'est pas Internet. Ils attendaient dans le bureau du télégraphe que les dépêches tombent et puis ils faisaient les comptes, hein, tel état, tel autre, tel pourcentage. Et à un moment, la décision tombe. Et Abraham Lincoln, qui était un monsieur immense, il prend son chapeau dans une main, le télégramme dans l'autre, il part en courant dans la rue vers la maison familiale. Il y allait vers le bout de la rue en criant « Marie, Marie, nous sommes élus !»
Nous sommes élus.
Ça veut dire que c'est un duo, c'est un couple politique. Elle a toujours cru en lui, elle l'a poussé même. Ils avaient la politique comme passion commune.
Oui, absolument. Et même quand ils étaient fiancés, ça a été assez chaotique. Lincoln était quelqu'un d'assez étrange, assez dépressif, et qui avait des hauts et des bas. Mais en tout cas, ils avaient cette passion commune, la politique. Mais lui était plutôt un homme d'idées, de vision. Et elle, on dirait vraiment une politicienne, pour pas dire une politicarde. Voilà, elle faisait les courriers pour convaincre les uns et les autres. Elle faisait les comptes des parlementaires qui avaient soutenu, ou au contraire, qui avaient dénigré son mari. Elle faisait vraiment campagne, comme on le faisait à l'époque. Mais elle avait cette passion du combat politique.
Alors, ce qui est intéressant, ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, dans ce rôle de First Lady qui s'est inventé au fur et à mesure des mandats et des décennies, c'est que l'image est essentielle pour la First Lady. C'est pas un métier, elles sont pas payées, c'est pas vraiment c'est un rôle, on va dire ça comme ça. L'image est essentielle pour elle, pour la femme d'Abraham Lincoln. Quelle image a-t-elle? Quelle première image donne-t-elle à la Maison-Blanche?
Elle a un premier souci, c'est de ne pas être prise pour une paysanne, pour une pecknaude, voilà, parce qu'elle vient du Kentucky. Et les gens de Washington sont très méprisants. Ils considèrent que c'est vraiment des sauvages dans ces contrées de l'Ouest. Et elle a deux modèles à cette époque-là. L'impératrice Eugénie, donc l'impératrice de France.
Qui n'était pas une plouque.
Voilà, et la reine Victoria. Et elle pensait que son rôle était le même. Alors, elle n'avait pas la prétention de rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours, mais elle se voyait tout à fait en équivalent d'une reine européenne. Et elle était absolument axée sur la mode. C'était une fashion victim. Et elle adorait les robes somptueuses. Et il n'y en avait jamais assez. Quand elle faisait ses essayages, elle rajoutait des rubans, elle rajoutait des volants, des plumes. Il fallait que ça brille. Et elle dépensait énormément d'argent en toilette, et ça ne la rendait pas très populaire parce qu'on était en période de guerre. C'était dès qu'ils arrivent à la Maison Blanche, c'est la guerre de sécession, une guerre très meurtrière où les gens souffrent vraiment beaucoup, et elle donne de grandes fêtes, ça ne passe pas très bien.
Les médias sont présents, on en a parlé, Martha Washington déjà en 1789. Exactement. Est observée. Là, j'imagine que la fièvre acheteuse en quelque sorte de Mary Lincoln fait jaser, on la critique.
On la critique beaucoup, d'autant qu'elle ne se contente pas que d'acheter des robes et des éventails. Elle remeuble la Maison Blanche de la cave au grenier, particulièrement les salons d'apparat, mais aussi les appartements privés. Et en quelques mois, elle dépense tout l'argent que le Congrès confie à la Première Dame pour l'entretien pendant 4 ans. Et elle n'a qu'une terreur, c'est que son mari, qui est quelqu'un de très sobre, de très réglo, s'en aperçoive. Donc elle essaye toutes sortes de combines pour dissimuler, en fait, que les Lincoln sont endettés jusqu'au cou.
Donc, c'est ce que vous racontez dans votre livre « First Ladies à la conquête de la Maison Blanche » publié chez Perrin. Elle va faire quoi? Elle va essayer de maquiller ses comptes?
Oui, elle
de
va
maquiller
bidouiller.
Ses dépenses, c'est vrai?
Elle va bidouiller. Alors, elle va prendre de l'argent qui est destiné à l'entretien des jardins ou du Capitole, et puis le réintégrer dans ses dépenses. Ou alors, elle va faire gonfler les notes d'épicerie pour qu'on lui rembourse davantage que ce qu'elle a dépensé. Pour ses vêtements, elle va accepter beaucoup de prêts, beaucoup de dons. Elle ne sait jamais trop s'il va falloir qu'elle rembourse ou pas. Enfin, elle est un peu à la lisière, même au-delà de la lisière de la légalité.
Mais alors, j'imagine qu'Abraham Lincoln va quand même mal réagir, peut-être s'éloigner même de sa femme, qui est quand même une des personnes les plus proches de lui à la Maison Blanche.
Il pique une énorme colère quand il découvre le pot aux roses en disant « Mais jamais, jamais, jamais de la vie, je n'accepterai de demander de l'argent supplémentaire au Congrès. » Et il parle de cette vieille baraque, en parlant de la Maison Blanche, cette vieille baraque qui était très bien comme elle était, il n'y avait pas besoin d'acheter toutes ces choses-là. Bon, finalement, cette fois-là, le Congrès va rajouter une ligne de crédit. Mais quand Abraham Lincoln est réélu, donc en 1864, l'enjeu pour Mary Lincoln est surtout que cette présidence continue, parce que sinon, il va découvrir qu'à nouveau, elle s'est endettée. Il n'aura pas le temps, puisqu'on sait qu'il sera assassiné rapidement.
Il est assassiné en avril 1865. C'est l'un des nombreux, malheureusement, présidents assassinés. Qu'est-ce qu'elle devient? Que devient son épouse?
Elle devient une veuve très malmenée et très mal aimée. Son fils aîné commence par la faire mettre en hôpital psychiatrique pendant quelques mois. Ensuite, elle se bagarre beaucoup pour obtenir une pension, ce qui nous semble quand même tout à fait normal. Mais à l'époque, une femme veuve au 19e siècle, elle était supposée disparaître, s'enfermer chez elle, et qu'on n'en entende plus parler. Donc, son côté très vindicatif lui nuit beaucoup. Encore aujourd'hui, elle est la First Lady la plus importante populaire de l'histoire.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Hillary Clinton deviendra peut-être demain la première femme présidente des États-Unis. Elle aura été auparavant First Lady pendant 8 ans, pendant que son mari était lui-même président. Et à l'époque, Hillary Clinton disait avoir un modèle, Eleanor Roosevelt. On vous raconte l'histoire d'Eleanor Roosevelt tout de suite avec l'historienne Nicole Bacharan et l'écrivain Dominique Simonet. Je rappelle que vous publiez First Ladies aux éditions Perrin. Donc on est en novembre 1932. Franklin Delano Roosevelt devient président. Est-ce que pour sa femme, c'était un rêve de devenir première dame?
Elle n'avait pas envie, non, elle n'avait pas très envie d'être First Lady, elle voulait... C'était une femme, c'est assez exceptionnel, effectivement, vous avez raison de dire qu'elle est le modèle d'Hillary Clinton, mais de beaucoup d'autres First Ladies, Jackie Kennedy par exemple aussi.
Ouais.
Jackie Kennedy disait que quand elle... souvent, elle pensait à elle et elle lui parlait pour essayer de voir comment Eleanor Roosevelt aurait fait à sa place.
Parce qu'elle a peu révolutionné la fonction, c'est ce qu'on peut peut-être, c'est ce qu'on va peut-être expliquer.
C'est une des First Ladies qui a pris son indépendance, c'est-à-dire qu'elle s'est donné un rôle indépendamment du rôle d'hôtesse qu'elle n'a pas d'ailleurs très très volontiers joué de rôle d'hôtesse à la Maison Blanche, et elle a construit sa propre carrière politique, humanitaire, et surtout de grande féministe, elle a défendu de nombreuses causes, celles des femmes, celles des noirs. Elle s'est battue pour les juifs européens aussi pendant la guerre. Donc c'est un personnage, c'est une personnalité en soi qui se distingue du simple costume de la First Lady.
Eleanor Roosevelt, d'où vient-elle? Comment est-ce qu'elle rencontre son mari?
C'est son cousin, en fait. C'est son cousin qu'elle connaissait depuis l'âge de 14 ans. Elle l'a revu quelques années plus tard dans un train. Et puis, ils ont décidé, en fait, qu'ils allaient plutôt bien ensemble. Il faut dire qu'Eleanor Roosevelt avait un complexe. Elle se sentait pas très jolie. Quand elle était petite, on l'appelait Granny, c'est-à-dire mémé, quoi, en fait. Donc, c'était pas très agréable. Et elle a toujours eu ce souci de ne pas être vraiment aimée, sans doute cette volonté de plaire, d'ailleurs.
Et les infidélités de Franklin Delano Roosevelt ne vont peut-être pas l'aider non plus ?
Voilà, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec un mari qui devient président, mais qui est effectivement pas un mari fidèle, qui a en plus un handicap grave. Hein, on a assez rapidement découvert qu'il souffrait de poliomyélite et qu'il était donc handicapé, qu'il avait besoin d'assistance en permanente. Et effectivement, il a une liaison avec une jeune femme que découvre Eleanor. Elle le somme de la terminer, ce qu'il promet. Mais à la Maison Blanche, il a une autre liaison. Et c'est assez curieux parce qu'en fait, on voit qu'Eleanor se reporte son affection vers une autre femme.
Qui ça?
Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle...
Lorena
Hitchcock, voilà.
Qui était journaliste,
c'est ça? Journaliste à l'Associated Press. Et qui, effectivement, vient même habiter à la Maison Blanche.
Alors, quand vous dites une affection, en fait, elles sont amantes, c'est ça?
Alors,
carrément,
ça se dit pas à l'époque.
Ouais.
Ça ne se dit pas à l'époque, mais effectivement, tout porte à croire qu'elles formaient un couple. Et d'ailleurs, il semble qu'à certains moments, les deux couples, c'est-à-dire FDR et son ami, et Eleanor et son ami, dînent ensemble et s'entendent plutôt bien à la Maison Blanche.
Est-ce que cette journaliste, elle est logée à la Maison Blanche, Lorena Hitchcock?
Pendant un moment, absolument. Ouais. C'était une époque où la Maison Blanche, c'était assez commun de pouvoir inviter ses invités, ses amis, sa famille. Et donc, il y a une forme comme ça de cohabitation assez amicale.
On peut comprendre que ça reste secret. Dans l'Amérique des années 30, ce ne serait pas passé,
voilà.
Ça. Hein, donc,
voilà. Mais alors, en même temps, Eleanor a une vie à elle. Elle a une maison à la campagne où elle reçoit ses amis, et d'ailleurs parmi lesquels de nombreuses grandes féministes de l'époque. Mm-hmm. Et elle mène sa carrière de femme politique. Elle fait des émissions de radio très écoutées. Elle tient des chroniques et elle joue un rôle de plus en plus important dans la progression des idées de l'époque.
Quand on dit que Eleanor Roosevelt c'est une femme libre, par exemple quand elle arrive à la Maison Blanche, ça étonne un peu tout le monde. Elle refuse d'être protégée.
Oui, c'est-à-dire que le premier geste qu'elle fait à la Maison Blanche, ça c'est, elle l'a raconté et d'autres l'ont raconté, c'est qu'elle refuse le liftier de l'ascenseur déjà.
Elle peut appuyer toute seule sur un bouton, c'est ça?
C'est exactement ce qu'elle dit. C'est exactement ce qu'elle dit. Je peux quand même appuyer. Donc c'est ça, Eleanor. C'est qu'elle commence à, un petit peu à bousculer les codes. Et effectivement, en tant que First Lady, on avait, elle se comporte comme on n'avait pas vu jusque-là. Donc en montrant que, elle a une vie à elle et qu'elle va pas se laisser faire. Cela dit, à la Maison Blanche, encore aujourd'hui et sans doute encore plus aujourd'hui, Le président et la First Lady ne sont pas libres. Il y a le Secret Service qui est là. Ils sont extrêmement surveillés, extrêmement entourés, et ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Avec un casque sur la tête ou avec un déguisement.
Avec un petit scooter et un casque, non.
Oui, ça ne pourrait pas passer. Dominique Simonet, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Il faut peut-être détailler un petit peu plus ces engagements politiques, ces grandes causes d'Eleanor Roosevelt. Par exemple, la cause des Noirs, de quelle manière s'engage-t-elle ?
Elle s'engage très précisément dans l'association qui était la NAACP, qui était le National Association for the Advancement of Colored People, c'est-à-dire l'association qui pousse les droits civiques et qui pousse pour une égalité raciale. Et elle est extrêmement présente. Elle fait même des gestes très symboliques. Un jour, à une conférence, je crois en 1939, dans l'Alabama, elle arrive dans la conférence et elle voit que les hommes et que les blancs et les noirs sont séparés, et ostensiblement elle prend une chaise, elle se met au milieu de l'allée et elle s'assied. Voilà, c'était ça Eleanor Roosevelt. C'était
quel tempérament,
First Lady, quand même. Attention, c'est donc des gestes comme ça sont
ça a un impact évidemment, quoi.
Pardon ?
Ça a un impact fort.
Énorme.
C'est le symbole, elle sait que...
Énorme. Ça donne le ton et ça fait évidemment avancer un certain nombre de d'idées. Elle va se battre aussi pour les... On le sait moins d'ailleurs, mais elle va se battre de manière assez virulente contre le département d'État pendant la guerre pour essayer de défendre et de sauver les juifs européens. Elle est absolument scandalisée par ce qui se passe et par l'inaction du département d'État. Et elle va...
D'État, on rappelle que...
C'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Oui.
Voilà. Elle essaye aussi d'obtenir que l'on ouvre les quotas de visa, et notamment même simplement pour les enfants, puisqu'elle n'arrive pas à l'obtenir pour tout le monde, et même ça, elle ne l'obtiendra pas. Donc elle se bat beaucoup, mais elle n'a pas toujours gain de cause, bien loin de là.
Eleanor Roosevelt, qui est la première femme à obtenir, la première First Lady, pardon, à obtenir un poste officiel. Qu'est-ce que c'est comme job et comment ça se passe ?
Elle va être nommée pendant la guerre, elle va être nommée pour diriger le bureau de défense civile. Et c'est-à-dire que, d'une certaine manière, officiellement, le président va lui confier toute la partie de la sécurité intérieure aux États-Unis en pleine guerre. C'était pas rien. Elle va être assez critiquée d'ailleurs, parce qu'elle va étendre cette fonction qui était normalement d'organiser la défense, c'est-à-dire au cas où les États-Unis étaient attaqués, d'avoir les règles de sécurité élémentaires. Elle va étendre cela à des mesures sociales, en s'intéressant aussi au logement, aux écoles. Et là, elle devra abandonner ce poste parce qu'on la critique d'aller trop loin et de faire justement trop de politique.
Le 12 avril 1945, Roosevelt, son mari, meurt. Est-ce qu'elle est aux côtés de son mari ?
Non, elle n'est pas aux côtés de son mari. Justement, on l'appelle. Dès qu'elle décroche le téléphone, elle comprend que ce qui vient de se passer. Roosevelt est quand même... C'est au début de son quatrième mandat, quand même, c'est le seul dans l'histoire américaine. Il est très affaibli, puisqu'il souffre de ses maladies. Et elle va donc en Floride, où il vient de mourir. Et là, en fait, elle comprend qu'il n'était pas seul, et que c'était Lucy Mercer, son ancienne maîtresse, qui était avec lui.
First Lady, à la conquête de la Maison Blanche, plein d'histoires et de portraits encore passionnants, édifiants à lire. Merci beaucoup Nicole Bacharan, merci Dominique Simonet.
Merci,
c'est un livre publié chez Perrin.
Merci.
Nicole, on vous retrouvera dans la matinale d'Yves Calvi mercredi matin, c'est ça ?
Avec les résultats.
Voilà, avec les résultats. Et puis je rappelle qu'il y aura une nuit américaine animée par Georges Lang avec la rédaction de RTL demain de 23h à 4h30 du matin.
Vous écoutez RTL.